Eh bien, bonjour à tous. Content d'être revenu parmi vous, là. Je vais garder la place à ce champ-là. Est-ce que tu peux m'aider, là? Je sais que je n'ai pas imprimé assez, désolé, mais il y en a 19, là. Peut-être quelques-uns. Attendez, il y en a un autre, là. Voilà. Il faut peut-être partager entre vous. Désolé que je n'avais pas la foi d'imprimer plus. Désolé. Mon épouse aurait voulu être là, Joy, mais on avait des amis à Toulon qui restaient avec nous toute la semaine. Alors, elle voulait être avec eux à l'église ce matin, parce qu'ils venaient de Brest pendant toute la semaine, un couple militaire. Voilà. Alors, pendant qu'il distribue ces feuilles-là, dans vos Bibles, pour ceux qui n'ont pas une feuille devant vous, là, le psaume 119. Vous voyez, le psaume 119, c'est le plus long des chapitres de la Bible, n'est-ce pas? Et je connais une dame, une missionnaire américaine en plus, qui travaille avec son mari à Lille. Elle a mémorisé tout ce chapitre, par cœur. Incroyable. Je n'avais pas encore entendu quelqu'un qui a tout mémoriser de ce chapitre-là. 176 versets, il faut le dire. Magnifique. Mais pour vous et pour nous, ce matin, ensemble, j'aimerais bien parler de quelque chose dans ce psaume que je crois être le thème conducteur de tout ce chapitre. Déjà, combien d'ici ont lu au moins 5 fois ce chapitre dans votre vie? 5 fois! Oh, qu'une seule. Oh, la honte. Oh là là. Il faut lire ce chapitre. Vous manquez une bénédiction énorme de ne pas avoir lu au moins, je dirais même 10 fois, ce chapitre. Tellement il y a un trésor. Oh là là. Un trésor sans fond et sans fin. Mais le thème conducteur que je vois dans ce chapitre, c'est ceci. Rends-moi la vie selon ta parole. Regardez sur vos feuilles les versets avec les petites étoiles. Voyez. Et c'est le premier là, verset 25. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Eh bien, nous allons prier avant de parler. Seigneur, je te prie de diriger maintenant nos pensées et nos cœurs vers toi. Et que cette parole nous ranime comme si nous étions morts. Ô Seigneur, fais ton œuvre de grâce dans chacun des cœurs ici et dans le mien surtout, pour que je puisse annoncer la parole de Dieu. Pour ta gloire, ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Rends-moi la vie selon ta parole. Alors, est-ce que vous êtes vivant? Alors, pincez-vous le joue pour être sûr. Ok. Au moins physiquement, vous êtes là, oui. Je le vois. Ok. Et une autre question. Comme la Bible nous prononce aussi. Et qu'est-ce que l'homme? Le psalmiste aussi a posé cette question dans chapitre 8, verset 5. Je ne cherchais pas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Même si nous croyons qu'en l'homme, il n'y a rien de bon qui mérite que Dieu se soucie de lui, nous lui accordons tout de même une valeur selon des critères personnel même, personnel, sociétaire ou religieux, n'est-ce pas? Nous lui accordons une valeur. En parlant de la valeur humaine, êtes-vous au courant de ce qui se passe dans le monde agricole en France? Ça vous dit quelque chose? J'espère. Hélas, chez nos agriculteurs français, bon nombre d'entre eux ont conclu que leur vie n'a plus de valeur, ni de sens. Du coup, nous entendons dans les infos, parfois, récemment même, que des agriculteurs et fermiers se suicident les uns après les autres, chaque semaine au moins. C'est grave. Découragés par un manque de gagner, criblés de dettes qui sont impossibles à rembourser, fatigués par leur dur labeur mal récompensé, désespérés en ne voyant pas le bout du tunnel, ils craquent et décident que leur vie ne vaut plus rien. Plus rien. Le suicide est parfois le seul issue qu'ils voient, et quelle fin tragique. Je ne sais pas si cette pensée est en train de passer par l'esprit de quelqu'un d'ici, mais j'espère que non. Et personnellement, je ne peux pas rester indifférent. Ayant grandi sur une ferme en Pennsylvanie, où je vais rentrer bientôt là, en Pennsylvanie, pas à la ferme, mais en Pennsylvanie, j'aime la vie de fermier ou d'agriculteur. Et dans mon entourage de fermiers, beaucoup d'entre nous faisaient partie de cette organisation qui s'appelait le FFA. En anglais, c'est Future Farmers of America, les futurs fermiers d'Amérique. Et leur devise, en anglais, c'est « We believe in the future of agriculture » ou « Nous croyons dans l'avenir de l'agriculture ». À part le fait que leur travail soit très dur, la vie du fermier comme producteur de lait, éleveur de bœufs ou céréalier est une vie où vous prenez plaisir de voir le résultat de votre travail. Ah, c'est quelque chose. On ne peut pas expliquer ça, le travail de fermier. Hélas, certains agriculteurs n'ont plus ni plaisir ni joie dans ce noble métier. Leur avenir paraît sombre, noir, triste. La triste conclusion est qu'ils voient leur vie n'ayant plus de valeur. Plus de valeur. Découragés, ils tombent en dépression et ils font parfois l'irréparable. Apparemment, le psalmiste, David ou d'autres, étaient conscients de la valeur de la vie. Dans ce psaume 119, et regardez bien quand vous allez le lire une prochaine fois, 20 fois, il demande à l'Éternel de lui rendre la vie. 20 fois, dans ce seul chapitre. Alors regardons ce premier verset encore une fois, où le psalmiste demande la vie. C'est le psaume 119, 25, là. « Mon âme est attachée à la poussière. » Déjà, on n'aime pas ça. Attaché à la poussière. Qui aime la poussière ici? Hein? Personne. Hein? Rends-moi la vie selon ta parole. Vous voyez son problème là, n'est-ce pas? On le sent, il a mal. Comme l'expression qui dit que quelque chose lui colle à la peau, il veut une solution. Et vite! Et maintenant? Et cela ressemble à ce qu'a dit Paul, si vous vous rappelez bien, dans Romains chapitre 7, verset 24, ne cherchez pas, je vais vous le dire là. Écoutez-le, Paul, quand il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» On dirait qu'il est en train de dire « Seigneur, rends-moi la vie !» Il était misérable comme le psalmiste. Qu'est-ce qui a produit sa tristesse, sa misère? Le paradoxe est que Paul est tiraillé par l'œuvre de la quoi? De la loi. De la loi. Dans son cœur. Quel contraste avec le psaume 119 et le verset 97. Je crois que c'est sur vos feuilles là. Non, je ne l'ai pas mis sur vos feuilles. Mais où est-ce que je l'ai fait? Non, c'est celui-ci que je n'ai pas mis. Mais ce verset dit, dans le verset 97, si vous avez vos Bibles ouvertes là, ça dit, combien j'aime quoi? Ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Paul aimait la loi. Il était quoi? Hein? Pharisien. Oh, la secte des pharisiens avait un zèle pour la loi qui était poussé même à l'excès. Oh là là, ils étaient fanatiques de la loi, si vous voulez. La loi devait réjouir l'âme de Paul, mais ce n'était pas le cas. Pas de la joie du tout. Dans Romains 7, Paul constate que la loi qu'il aimait tant ne lui donne pas la vie. Encore moins la vie éternelle. Cette vérité était cruciale quand même. Et Paul, dans son épître aux Galates, a prononcé une malédiction, ça veut dire l'anathème, sur ceux qui voulaient ajouter une loi à l'évangile pour être sauvés. C'était quoi, cette loi? La circoncision. Ou bien, ça peut être n'importe quel signe extérieur, visible. Voyez. Alors j'espère pour vous, mon ami, que vous ne cherchez pas autre chose que Christ seul et son sacrifice à la croix. Pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle. Il n'y a pas autre chose, comme vous avez bien, tu as bien dit ce matin, dans Jean 14, 6. J'espère aussi, malgré la détresse qui vous colle peut-être à la peau, je ne sais pas qui je vois là ce matin, vous ne songez pas à mettre fin à votre vie par la voie du suicide. Et oui, on entend même ça parmi les évangéliques aujourd'hui, le suicide. Triste. Christ vous offre non seulement la vie éternelle, mais ici-bas, comme nous disons dans Jean 10, verset 10, quelle vie, quel genre de vie?
Hein?
Abondante, bien sûr, abondante. Vous connaissez bien ce verset, j'espère. Alors, je vous laisse le soin de lire Jean 10, verset 10. Et comment avoir la vie abondante que Jésus nous a promise? Cette question en amène une autre quand même. C'est quoi le point de départ du passage de la mort à la vie? C'est à quel point? Quel moment? Le moment de la nouvelle naissance. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? La nouvelle naissance, née de nouveau. Comme la vie humaine commence par une naissance physique, voilà, vous êtes là, naissance physique, la vie éternelle commence par une naissance spirituelle. Au moment précis de cette naissance spirituelle, nous commençons à vivre avec Christ et en Christ, qui nous donne la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui a produit cette naissance? Hein? Qu'est-ce qui a produit cette naissance, cette régénération? Alors, je ne sais pas si j'ai mis aussi 1 Pierre 1. Non, désolé. Mais regardez dans vos Bibles quand même. 1 Pierre 1. J'aimerais bien que vous voyez tous ensemble ce verset-là. 1 Pierre 1, les versets 22 à 23. En Pierre 1, les versets 22 à 23. Et là, on lit ceci. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été, notez bien, régénérés. Régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Voyez, la régénération est produite en nous par quel moyen? Par la parole. La parole de Dieu, car elle seule est quoi? Vivante. La parole vivante. Il faut quelque chose de vivant pour donner la vie. Et la parole a fait. Si vous avez venu à Jésus-Christ, c'était à cause de la parole de Dieu qui vous a régénéré intérieurement, spirituellement. Régénéré. À ce moment précis, Dieu vous rend la vie. Il vous rend la vie. À ce moment, et là, en ce moment précis, en général, ok, des enfants de Dieu prennent un bon départ. Mais, hélas, un peu de temps, leur vie spirituelle coince. Oui, il y en a beaucoup comme ça. Peut-être vous n'imaginez pas, mais il y en a beaucoup comme ça aujourd'hui. Comme dans l'expérience de Paul dans Romains 7. Mais pas avec la loi. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la loi qui nous gêne. Et comme lui, bon nombre de chrétiens se trouvent dans une misère spirituelle. Ils ne vous le disent pas, peut-être. Et ça paraît peut-être pas, ils sourient et tout. Mais ils cachent peut-être une misère, quand même. Misère spirituelle. Il y en a qui acceptent. Ou plutôt, qui n'accepte pas cet état d'esprit, cette misère spirituelle. Mais d'autres ne font plus d'efforts pour aller de l'avant avec leur vie, avec Christ. Et leur vie avec Christ stagne. Ça ne bouge plus. Ça ne vit plus. On dirait quoi? Un mort vivant. Un mort vivant. Alors, encore à Pierre. On va lire quelque chose dans Pierre aussi. 1 Pierre, dans le même chapitre où vous êtes, je crois. 1 Pierre 1, versets 1 à 10. Non, pardon. Est-ce que j'ai dit 1 Pierre? Oh là. Excusez-moi, c'est 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, des versets 1 à 10. Ça y est, vous y êtes. OK. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa puissance, et notez bien ce paragraphe-là maintenant, faites bien attention à chaque mot, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. On va revenir à ce mot vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, et notez cette phrase-là aussi, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi à la patience à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié la fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisif, ni, et notez ce mot-là aussi, stérile. Stérile. Stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Jamais. Voyez, la vertu. Joindre à votre foi la vertu. Mais c'est quoi la vertu? Alors, j'ai cherché partout, mais la meilleure définition que je puisse trouver, c'était celle-ci. La vertu est une disposition du cœur à accomplir certains actes moraux de très haute qualité. C'est-à-dire le désir d'accomplir des actes qui répondent au standard divin. Au standard divin. Alors, j'ai réfléchi, mais qui est dans la parole de Dieu à montrer la vertu comme ça pour faire les actes moraux du standard divin? À mon avis, c'était, pour moi, le meilleur exemple dans le Nouveau Testament, au moins, c'était Lydie. Vous connaissez l'histoire de Lydie? En Actes 16, il est dit qu'elle était attentive à ce que disait Paul. Sans doute, l'enseignement de la parole de Dieu, parce qu'il est passé là, et passé des jours à enseigner la parole, et elle était tout oreille, elle écoutait. Car le Seigneur, à ce moment-là, lui avait ouvert le cœur. Alors là, juste rapidement, le mot « ouvert le cœur », ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un moment, c'est-à-dire rapidement. Okay? Pendant qu'elle écoutait l'enseignement, ce qui se passait, le mot « ouvert », c'est « démêler son cœur ». Parce que son cœur était une boule de nœuds. C'est-à-dire des enseignements de toutes sortes qui entravaient son cœur. Et alors aujourd'hui, même parmi les chrétiens, on écoute parfois des choses soi-disant sages, des mots de sagesse et des conseils humains plutôt, ou humanistes, qui entravent et qui font un obstacle dans notre cœur pour que Dieu puisse vraiment travailler librement. Vous voyez? Et l'idée était comme ça. Alors, dès que cette boule était partie par l'Esprit de Dieu qui éclairait son cœur, elle s'est passée au baptême. Et elle a fait cette demande dans Actes 16, sans besoin de chercher. Elle a dit, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Parce qu'elle a ouvert sa maison à Paul et Silas, et en fait l'équipe de Paul. Alors, preuve qu'elle était une femme vertueuse, elle était plus soucieuse de sa fidélité qu'une offre d'hospitalité. Plus soucieuse de sa fidélité envers Dieu qu'une offre d'hospitalité. Elle aurait pu s'en passer de cette idée de fidélité en disant, venez chez moi. Mais non, elle mettait au départ, si vous me jugez fidèle, waouh, je ne sais pas si je pourrais faire une telle demande à quelqu'un. Eh bien, sa fidélité était le fruit de son obéissance à la parole de Dieu. Le résultat, Dieu lui avait rendu quoi? La vie. Dieu lui a rendu la vie. Et elle s'est soumise au conducteur spirituel. Elle s'est mise au service de Dieu en mettant sa maison à leur disposition. Magnifique. Mais revenons au verset 8 de Pierre là. Et qu'est-ce qu'on voit là? Verset 8. Car si ces choses sont à vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Alors, je reviens à ce mot-là. Alors, stérile, ça veut dire donc quoi? Une vie, en fait, spirituelle, oui, peut-être, on espère. Une vie spirituelle, mais sans valeur. Vous vous rappelez de valeur tout à l'heure? Un peu comme qui dans l'Ancien Testament? Qui était un homme juste, mais sans valeur?
Saül.
Qui? Saül. Non. Plutôt. Trois petites lettres. Pas Job, surtout pas Job. Non, Lot. Lot. Oh là là. Stérile. Sans valeur. aucune influence spirituelle sur ceux qui l'entouraient. Et pourtant, la Bible dit qu'il était un homme juste devant Dieu. En fait, sa vie était misérable. Il était même vexé par ce qu'il voyait autour de lui, mais sans pouvoir rien faire. Il était stérile. Le fruit de l'esprit ne marchait plus en lui. Pourtant, il était proche d'Abraham, l'homme de foi. Vous voyez? Eh oui, Lot. Mais pire encore que Paul dans Romains 7. Certains font comme un suicide spirituel en se détournant des voies de Dieu. Je vous donne un exemple. Nos collègues, M. et Mme Scott, Robert et Cindy, leurs trois fils, pourtant on les connaît bien, ils étaient en France avec nous, leurs trois fils ne marchent plus avec le Seigneur. Tragique. Pourtant, au moins, leur fille marche avec le Seigneur, mais ses trois fils, quelle tristesse de voir ça. Ça brise mon cœur, parce que je les connais comme mes propres enfants. Excusez-moi un instant. On prie pour ces trois hommes qu'ils reviennent au Seigneur. Se détourner de Dieu et de ses voies est un chemin périlleux, tant pour celui qui est réellement sauvé que pour celui qui se dit chrétien, mais qui ne possède pas vraiment la vie éternelle. Le problème est que nous avons du mal à savoir qui est le vrai et qui est le faux. Vous voyez? En regardant Lot, vous diriez, ben, lui, sauvé. Pas possible. Mais il était misérable aussi. Mon exhortation ce matin est surtout pour celui qui connaît la certitude de son salut, mais qui se sent misérable dans sa vie chrétienne. Peut-être il y a quelqu'un ici comme ça, je ne sais pas. Peut-être vous n'avez pas fait ce que Pierre nous dit de faire et vous n'avez fait que peu d'efforts pour ajouter à votre foi, toutes ces qualités qu'on a vues dans le chapitre 1 là. Alors si vous vivez comme cela, sans faire d'efforts pour ajouter à votre foi ceci et cela, votre vie spirituelle va commencer à mourir. De la même façon que Lot. Mais comment régler une telle situation? Je ne sais pas si vous rappelez, je ne sais pas si c'était ici ou une autre église, mais est-ce que j'ai prêché sur la mémorisation biblique ici? Non? Oh, c'est quoi? Peut-être c'est dans une autre église. Mais dans une autre église, j'ai prêché sur la mémorisation de la parole de Dieu. Et je leur ai dit, comment régler cette situation? C'est en connaissant vraiment la plénitude de Dieu dans notre vie. En fait, c'est ça. La mémorisation biblique nous amène vraiment à la plénitude de Dieu. Si vous regardez Proverbes, les premiers 7 chapitres, vous verrez au moins une dizaine de fois où il est question de mettre la parole où? Là-dedans, dans notre cœur. Et la seule façon de le faire, c'est de le mémoriser, mémoriser, mémoriser. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Alors, faisant cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous vivrons, en faisant la mémorisation, nous vivrons toute la plénitude de Dieu qu'il a prévue pour nous, si nous nous donnons, voilà, à l'apprentissage par cœur de la parole de Dieu. Est-ce que vous le faites? Si vous ne le faites pas, vous pouvez être en train de dégringoler, en quelque sorte, dans votre vie spirituelle. Oui, vous lisez la parole peut-être, mais c'est pas suffisant. Hein? Ouais. Je vais revenir à ça en un instant. Il me semble que dans ma vie spirituelle personnelle, je n'expérimente pas la plénitude de Dieu que Dieu veut pour moi et en moi. Et c'est quoi la raison pour cela? Oui, même moi-même, je ne sens pas cette plénitude que je veux voir de Dieu. Bon, il y a peut-être d'autres facteurs pour ce manque dans ma vie, mais la raison principale est que je manque d'assiduité, d'être assidu et de zèle pour la parole de Dieu. Vous le sentez avec ce premier verset qu'on a vu ce matin, Psaume 119, verset 25. « Rends-moi la vie selon ta parole. » Même les pharisiens, s'ils avaient appliqué la loi selon l'Esprit de Dieu, ils auraient vu, ils auraient eu cette vie que Dieu voulait qu'ils aient. Ils auraient connu cette vie pour laquelle le psalmiste suppliait Dieu ici. Eh bien, c'est pour ça que j'ai emmené ce livre ce matin. Est-ce que certains connaissent ce livre-là? En général, je ne lis pas des... L'audace de la foi, par George Miller. L'audace de la foi. Alors, il faut le lire. Eh bien, en général, je ne lis jamais quelque chose d'un livre comme ça pendant un message, mais cette fois-ci, il avait tellement à dire que je ne pouvais pas le mettre comme je voulais. Alors, je vais le lire pour vous ce matin. Alors, écoutez bien. Le chapitre 20, qui s'appelle « Bible et prière ». Bible et prière. Dans son journal quotidien. Il a plu au Seigneur de m'enseigner sans le secours d'instruments humains, pour autant que je puisse m'en rendre compte, une vérité dont je n'ai jamais perdu la bénédiction. J'ai discerné avec la plus grande clarté que la grande affaire, l'affaire principale de chaque journée, c'est de nourrir son intérieur. OK? Son être intérieur. Car, même si je témoigne de la vérité devant les inconvertis, même si j'essaie de la communiquer aux fidèles, même si je cherche à secourir les affligés et si je fais des efforts pour me conduire en ce monde comme il convient à l'enfant de Dieu, si je ne suis pas heureux en Christ, mon Sauveur, si je ne suis pas nourri et fortifié intérieurement, jour après jour, toute mon activité ne découle pas de l'esprit. Ne découle pas de l'esprit qu'il me faut. C'est-à-dire d'un esprit dans les conditions d'équilibre normal. Durant ces dernières années, au moins, dix dernières années, voici comment j'ai procédé le matin. Je m'habillais, puis je me mettais à prier. Maintenant, je comprends que la chose la plus importante, c'est de lire la parole de Dieu et de la méditer pour que mon cœur soit ainsi fortifié, encouragé, repris, instruit, et que dans cette méditation, je sois amené à faire l'expérience de la communion avec le Seigneur. J'ai donc médité le Nouveau Testament dès le matin, en commençant aux premières pages, après avoir demandé à Dieu sa bénédiction sur cette étude de sa parole. Puis, je me suis appliqué à trouver une bénédiction dans chaque verset, non pas en pensant à de futures prédications, mais dans le seul but de nourrir mon âme. Alors, je vais essayer d'écouter un petit peu là. Voilà, ce n'est que lorsque nous avons nourri notre âme par la méditation de la parole que nous pouvons le mieux prier. Vous avez du mal dans votre vie de prière? Si votre vie de prière est nourrie par la parole de Dieu, alors là, vous n'aurez pas de problème. Et je l'ai expérimenté. La parole vous aide à prier. Prier, comme il faut. Si faible que nous soyons au point de vue spirituel, nous pouvons toujours méditer les Écritures de façon profitable avec la bénédiction de Dieu. Mieux encore, plus nous sommes faibles, plus cette méditation nous est profitable. Ah, j'aime cette phrase-là. Plus nous sommes faibles, plus cette méditation nous est profitable. Où en êtes-vous dans ce sens-là? Magnifique. Mais alors, le témoignage de Müller, c'est magnifique. Mais en lisant le chapitre 119, j'ai vraiment l'impression que le psalmiste a donné... Pardon, voilà. Je vais vous lire ça, j'ai mal lu, quoi. Oui, en lisant ce chapitre 119, j'ai l'impression que le psalmiste a donné à Müller l'inspiration pour sa manière de lire la Bible, pour se mettre dans un état heureux devant Dieu. Quand vous lisez la Bible, est-ce que ça vous rend heureux? Ou est-ce que vous faites votre lecture quotidienne, comme ça, machinalement, voyez, je l'ai fait, ça y est, c'est bon, je m'en vais. Voyez? Moi, je vois beaucoup de chrétiens comme ça. Ouais. Eh bien, peut-être vous aussi, après cette lecture du témoignage de Müller, vous avez été touché, même convaincu par le Saint-Esprit de vous donner plus assidûment à la parole de Dieu. Si quelqu'un est assidu à lire la Bible, c'était Müller. Écoutez bien, avant de mourir, il était raconté que lui, il avait lu la Bible dans son intégralité environ, écoutez bien, 200 fois. 200 fois. Ce n'est pas le meilleur. Et 100 fois à genoux. Imagine. Il lisait toute la Bible à genoux, 100 fois. Voilà, ça me... J'ai honte de dire pour moi-même. Les évangiles nous révèlent que 10 fois, Jésus a posé cette question. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? 10 fois, il a posé cette question. Surtout aux pharisiens, ceux qui devaient être les conducteurs spirituel, comme moi, par exemple, comme notre frère là. Et vous avez ce traité derrière là, sur le présentoir. Avez-vous lu la Bible, la parole de Dieu? Oh, peut-être vous dites, oui, j'ai fait ma lecture quotidienne. Très bien. Mais si Jésus vous posait cette question, cette fois, comme ça, « Mon enfant, combien de fois avez-vous lu toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse ?» Toute la Bible. J'espère que oui. Vous pouvez dire oui. Mais je pense que nous pouvons appliquer ce que Paul a dit à Timothée. J'espère que c'est sur vos feuilles là. Oui, voilà. Dernier verset sur la feuille là en bas. Deuxième page. Il est dit... 1 Timothée 4, 13, vous voyez là, en bas de la page. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alors, vous vous appliquez à la lecture de la Bible? Combien de fois vous l'avez lu entièrement? Eh oui. D'abord, notre première leçon ce matin, tout simplement, la lecture biblique quotidienne. Le plus facile que j'ai trouvé, c'est de lire au moins 3 chapitres par jour et 5 le dimanche. Et vous pouvez faire chaque année toute la Bible. 3 chapitres par jour et 5 le dimanche. Combien ici le font? Voilà là. Dur, hein? C'est dur, hein? Oui, je sais. Ça a l'air impossible, je vous dis. Vous pouvez le faire. Regardez Müller. Et Müller n'était pas un homme très fort. Et il vivait dans des conditions très difficiles aussi. Dans un orphelinat en Bristol, en Angleterre. Et parfois, il priait chaque jour pour la nourriture de ses orphelins. Sans savoir d'où ça venait. Et parfois, ils étaient à table, sans rien sur la table, à la porte. Voilà. Ils ouvrent la porte et toute la nourriture était là, au moment du repas, parce qu'ils avaient prié ensemble que le Seigneur pourvoie à ce repas. Mais il a dit, le Seigneur répondait à ses prières comme ça parce qu'il se donnait à la parole de Dieu. Vous voyez, la lecture biblique tous les jours. Deuxième leçon, la mise en pratique de la parole. Est-ce que je l'ai mis là? Oui, dernier verset, Jacques 1, 22. N'est-ce pas? Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La mise en pratique de la parole, c'est quoi? Obéissance. Tout court. Obéissance. Voyez, ma lecture de la Bible, écoutez bien, ma lecture de la Bible est une évidence de mon amour de la vérité. Et une phrase qu'on trouve dans 2 Thessaloniciens 2:10. Okay? Mais mon obéissance à la parole de Dieu est l'évidence de mon amour pour Dieu. Alors, jusqu'ici, nous avons vu comment la parole nous a régénérés pour nous donner la vie en Christ. Alors, notre obéissance trouve un écho avec le psalmiste en verset 88. Est-ce que je l'ai mis là? Oui, regardez là, sur la feuille. Le verset 88 de Psaume 119. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. En d'autres termes, afin que j'obéisse à ta parole. Tout simplement. Rends-moi la vie pour que j'obéisse à toi. Obéir égale quoi? À votre avis, après tout ce que vous venez d'entendre ce matin, obéir égale vivre. Vivre. Mais parfois, on a du mal à obéir au Seigneur et à sa parole. Obéir égale vivre. Rends-moi la vie selon ta parole afin que j'observe tes préceptes. N'est-ce pas? La méditation, troisième leçon, la méditation biblique. Alors, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur la méditation, mais je vais revenir à ça. Si vous voulez regarder des sites web pour la méditation et pour la lecture biblique en un an, le site web c'est Bible, avec le chiffre 1 après, Bible 1 an, quoi, Bible 1 an, ok, .com, ok, tout simplement, Bible 1 an.com. Alors, et le deuxième c'est infobible.org pour voir les plans de lecture quotidiennes. Okay? Et puis, vous connaissez Josué 1:8, n'est-ce pas? Je n'ai pas mis sur la feuille, je crois. Regardez Josué avec moi. Josué. Vous rappelez ce que Dieu a dit à Josué avant de partir en guerre? Hein? Regardez là. Josué 1 et verset 8. Josué 1 et le verset 8. Je vois des pages qui tournent. Alors, je vous attends un peu là. Parce que vous devez le connaître par cœur. Et oui. Alors, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le constamment. Non, ce n'est pas constamment là. C'est jour et nuit. Parfois, j'entends certains enseignements que jour et nuit, ça veut dire constamment. Non, ce n'est pas constamment. C'est pendant le jour et pendant la nuit. OK? Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et là, les entreprises, c'était la guerre. C'est alors que tu réussiras. Donc, méditer égale réussir. Obéir, vivre. Méditer, réussir. J'espère que je vous encourage un petit peu ce matin dans la parole. On en a besoin parce que ce monde a besoin de l'entendre, comme tu as bien dit ce matin. Et puis, la quatrième leçon, et je reviens à ma fétiche personnelle, la mémorisation biblique. Vous connaissez ce verset, j'espère, par cœur, hein, Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Vous savez ce que ça veut dire « serrer » Ce mot « serrer » dans l'hébreu? C'est comme si vous prenez un vis, une vis, et que vous le mettez dans un morceau de bois. Alors, je vous assure, ça va être très difficile de retirer cette vis d'un morceau de bois, avec vos doigts, même avec un outil. C'est ça la chose. C'est ça l'exemple, l'image. On serre comme ça. Comme ça, la parole reste. Ça veut dire que ça va vous exiger un travail. Mais un travail avec une telle bénédiction que je ne peux pas vous expliquer. Alors, pour un autre site qui parle de la mémorisation biblique collective, ensemble, regarde le site web toutpoursagloire.com. Toutpoursagloire.com. Il y a un serviteur de Dieu qui explique comment la mémorisation biblique peut être une bénédiction incroyable pour l'église locale. Faites-le. Alors, ensemble, faites-le. Alors, si vous n'êtes pas vraiment bien convaincu de mémoriser la parole de Dieu, et si vous n'avez pas encore été convaincu pour partir avec ça, je vais vous donner 10 bonnes raisons pour le faire. Numéro 1, parce que tu as une mauvaise mémoire. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire. Et j'en ai besoin de mémoriser la parole de Dieu. Sinon, j'oublierai très vite. Deuxième raison, parce que tu as besoin de nourrir ton esprit, comme on vient de voir ce matin. Nourrir ton esprit. Troisième, parce que la Bible est trop accessible pour toi. Trop accessible. Quatrième, oh là là, parce que tu as Internet. Vous rigolez à ça, mais on a besoin de la parole parce qu'on on voit sur Internet ce qu'on ne devrait pas voir peut-être. Cinquième, parce que tu ne connais pas la Bible aussi bien que tu ne le crois. Tu ne connais pas la Bible aussi bien que tu ne le crois. Sixièmement, parce que la Bible aura plus de valeur pour vous, à tes yeux. Septième, parce que tu saisiras mieux la gloire de Dieu. Huitième raison, parce que ça va aiguiser ta perception des bêtises de ce monde. Mes amis, j'ai presque une difficulté à dire, mais nous chrétiens aujourd'hui, on est devenus trop quoi? Mondains. Mondains. On est attirés par le monde. Et c'est pour cela qu'on a besoin de mémoriser la parole pour rester différent de ce monde. Différent. Alors là, neuvième raison, alors là, attention, hein, parce que tu vas souffrir. Tu vas souffrir quelque part dans votre vie, vous allez souffrir. Et là, qu'est-ce qui va vous aider à supporter la souffrance? La parole de Dieu. Et si par hasard, dans cette souffrance, comme nous vivons un monde terroriste, il se peut qu'on soit détaché de nos Bibles. Plus de Bibles. Alors, où est-ce que se trouve la parole là? Alors, il faut qu'elle soit là, dans mon cœur. Et puis, dixième raison, parce que tes frères et sœurs en Christ vont souffrir. Et qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme encouragement? J'espère que peut-être je vous ai donné une motivation pour prier, une seule prière, pendant quelque temps, pour que ça mette en marche quelque chose dans nos vies. Demande au Seigneur, rends-moi la vie selon ta parole. J'en ai besoin. Vous savez, on a chanté tout à l'heure, je crois que c'était le 603, c'est ça? Voilà. Je voulais montrer quelque chose là. Il a dit, mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé en t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé, sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort et ma vie, je t'aime, mon Jésus. Vous savez, nous avons là la parole vivante de Jésus-Christ. Il est vivant. Il est la parole vivante et nous avons la parole écrite. Là, c'est la plus grande communion que vous puissiez avoir avec Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes zélé pour la parole de Dieu? Sinon, vous êtes peut-être en train de devenir stérile, avec une vie sans valeur. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Lire la Bible, méditer la Bible et mémoriser la Bible. Et vivre comme Dieu veut que vous viviez pour sa gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Que tu fasses ton œuvre de grâce dans nos cœurs à chacun, pour que nous vivions comme tu veux qu'on vive dans ce monde. Au nom de Seigneur Jésus. Amen. Amen.